Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Jusqu'ici notre lecture. Je vous invite à la prière. Nous te louons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole, pour ta décision de t'adresser à nous de telle sorte que nous comprenions quelque chose de ta pensée. Nous te demandons d'éveiller notre intelligence, de la conduire, de la protéger des déviations de droite ou de gauche. Veuille nous permettre de discerner mieux ce que tu as prévu pour nous, quels sont les dons que tu veux nous faire, quelle est la vie par laquelle tu veux que nous glorifions ta grâce. Nous te bénissons de nous réunir toi-même. Nous te louons pour l'occasion que tu nous donnes de nous édifier les uns les autres et de jouir de la communion fraternelle. Qu'il en soit bien ainsi, Seigneur, que nous saisissions pleinement chacun toutes les occasions que tu nous accordes. Veuille nous conduire, veuille agir librement dans le groupe que nous formons. Veuille permettre que nous soyons mieux équipés pour ton service et portés à toujours plus de louanges et de reconnaissance par le discernement que tu nous auras permis d'acquérir. Nous te confions ces heures d'aujourd'hui. Nous te demandons de renouveler toutes nos forces, en particulier intellectuelles, pour que nous saisissions bien ce que nous avons à discerner. C'est au nom de Jésus et avec reconnaissance d'avance que nous te prions. Amen. Comme vous l'avez vu pour les cinq sessions qui nous rassemblent, c'est la théologie de ce qu'on appelle classiquement les sacrements que nous devons essayer de traiter. J'ai intitulé mon canevas « Pour une théologie des sacrements ». Il ne s'agit pas pour nous d'ambitionner un exposé complet et suffisamment fondé de ce qu'on peut dire lorsque l'on déploie un cours de théologie sur ce sujet. Il faudrait, je pense, 10 fois, au moins le temps qui est à notre disposition. Il s'agit d'une contribution, il s'agit d'une préparation pour une théologie des sacrements. C'est un sujet qui est assez délicat et gros, pourtant, de conséquences pratiques. Au sujet du baptême et de la scène, comme on les appelle du côté protestant, les chrétiens se sont divisés plus âprement que sur beaucoup d'autres éléments de leur foi et de leur pratique. Et même sur des points que l'on peut juger, je pense, très raisonnablement, comme plus importants, plus essentiels par rapport à l'Évangile, Il y a eu moins de disputes, moins de passions que sur le baptême et la scène. C'est ce sujet que nous abordons, en partie, je crois, à cause des conséquences très, très concrètes, très pratiques, quant à la vie de l'Église, quant à l'appartenance à une dénomination, pour ceux qui appartiennent à l'appareil dans l'organisation des Églises. Leur gagne-pain a parfois été mis en cause. Un pasteur d'une église baptiste qui devient convaincu qu'il doit baptiser les petits-enfants ou la réciproque, il y va de son statut professionnel, il y va de la sécurité de sa famille. Il y a des attaches pratiques très très lourdes, et cela peut expliquer une partie de l'âpreté des discussions qui se sont déroulées. Je pense qu'il y a aussi des dimensions beaucoup plus profondes que celles que je viens d'évoquer, que les débats sur le baptême et la scène font résonner en nous des couches de l'inconscient qui expliquent que les passions soient souvent si fortes lorsque l'on débat. Et à mes yeux en tout cas, mais je suis évidemment jugé parti en l'affaire, que de très bons esprits, des gens compétents, puissent avancer des arguments dont l'absurdité me paraît énorme. Cela arrive précisément parce qu'il y a des interférences de passions obscures. Les archétypes de l'inconscient viennent s'imposer de telle sorte que la personne n'évalue plus les choses avec la sobriété et le sens de la mesure qui lui permettrait d'aboutir à une conclusion raisonnable. Alors, je dis bien, je suis jugé parti en l'affaire. Je dis mon sentiment, mais bien sûr, je n'ignore pas que d'autres pourraient avoir le même sentiment de monstruosité logique lorsque j'avance ma propre doctrine, c'est-à-dire mon interprétation des textes de l'Écriture. Et il faut souligner que les divisions qui concernent le baptême et la scène affectent les chrétiens évangéliques eux-mêmes. Certes, les divisions les plus profondes se situent entre des blocs de chrétienté parmi lesquels les évangéliques ne constituent qu'un élément. Il y a un bien commun des évangéliques, au sens où nous employons le terme, c'est-à-dire des héritiers de la Réformation, mettant l'accent sur l'autorité exclusive de la Bible comme norme souveraine en matière de doctrine et en matière de conduite. Il y a un bien commun qui ne doit pas être sous-estimé. Et cela joue également pour le baptême et la scène. Il y a le même refus de certains éléments, par exemple, caractéristiques de la thèse catholique ancienne, chez tous ceux qui portent le nom d'évangélique au sens que nous donnons au terme, et qui est bien établi en français. Mais en dépit de ce bien commun, que je veux reconnaître à son prix, je constate que les chrétiens évangéliques eux-mêmes restent divisés sur la question du baptême et de la scène. Ces divisions n'empêchent pas la collaboration, grâce à Dieu, parce qu'il s'agit justement de questions qui ne sont pas du tout premier rang, étant donné leur accord, mais ce sont malgré tout des divisions qui ne permettent pas que soit constituée une seule et même Église. Il y a des contestations et cela nous oblige à un double impératif de prudence et de rigueur. Dans mon canevas, vous l'avez, je pense, reçu, il se trouve dans le fascicule, je dis la prudence est de rigueur et la rigueur un conseil de prudence. Il faut être très prudent quand des chrétiens évangéliques compétents sont en désaccord Et l'impératif que la prudence inspire, c'est de faire chaque pas, quand on développe la doctrine, en s'assurant bien qu'il est fait selon les normes, qu'il y a suffisamment de données bibliques pour appuyer ce que l'on vient d'affirmer. À chaque élément de la démarche, et en considérant aussi les méthodes mises en œuvre, voilà ce que j'appelle la rigueur. Je me plains que trop souvent dans les débats sur les sacrements, y compris dans ce qu'on lit de plumes évangéliques, des affirmations péremptoires se lisent qui n'ont pas de soutien très fort. Des textes sont invoqués, dont on peut en tout cas très bien contester qu'ils se réfèrent au baptême ou à la scène. Il convient d'être rigoureux à cet égard. Alors, comme exemple de rigueur méthodologique à mettre en œuvre, je vous propose de considérer d'abord ce que j'ai mis sous le titre « Le genre et le nom ». J'ai intitulé l'ensemble du cours pour une théologie des sacrements, utilisant le mot sacrement, et les quelques mots que j'ai déjà prononcés montrent que j'appelle sacrement le baptême et la scène. Pour beaucoup de gens, ça va de soi, mais est-ce que cela va vraiment de soi? Si nous voulons être rigoureux, il nous faut commencer par examiner l'inclusion du baptême et de la scène dans une même catégorie. Est-ce que nous ne forçons pas les choses? Est-ce que nous ne commençons pas déjà à déformer les données dans le sens d'une certaine tradition en réunissant le baptême et la scène dans une seule et même catégorie, sous une seule et même rubrique appelée sacrement? Il y a le problème du genre. Baptême et scène sont-ils deux éléments d'une même classe, d'un même genre? On l'a affirmé de manière classique. Il est sûr que la tradition qui nous précède et à laquelle nous n'échappons jamais a estimé qu'il s'agissait d'un genre. Le titre même de la doctrine des sacrements dans les vieux traités de théologie, c'est « De sacramentis in genere », des sacrements dans leur genre, en général. Donc on a affirmé qu'il y avait genre. Mais il nous faut justifier cet élément traditionnel. Et puis le mot de sacrement, est-il neutre? Peut-il être employé sans que l'on truque en quelque sorte subrepticement le traitement des données? Là aussi, c'est une question qui doit être posée. Donc c'est le premier point que j'aborde sous le titre A, le genre et le nom. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament et d'autres documents qui concernent le christianisme le plus ancien, nous voyons que les chrétiens pratiquaient un bain et un repas ritualisés. On peut utiliser le mot de rite à leur propos, bien qu'il ne soit pas sans danger lui-même. Je m'interroge un petit peu sur l'adéquation du terme. On peut l'utiliser parce que dans le vocabulaire courant de l'anthropologie, des sciences humaines, il s'agit des cérémonies qui ont une signification au-delà de l'utilitaire, où des éléments servent avec une autre fonction, une autre signification que celle de l'usage quotidien le plus courant. Normalement, on se baigne pour se laver. C'est pas pour ça que les chrétiens sont baptisés dans le Nouveau Testament. On prend du pain et du vin pour se nourrir et se désaltérer. En tout cas, c'est pas seulement pour ça. Manifestement, il y a quelque chose d'autre qui intervient. Et on emploie donc classiquement le mot de rite pour désigner ces cérémonies avec un autre but que l'usage des éléments ordinaires. Mais la dénomination risque d'être trompeuse si on tient compte d'un élément que le mot rite peut impliquer, à savoir une attention scrupuleuse, une valorisation extrême de la forme exacte. Cela semble caractériser assez les rites dans la plupart des sociétés et en particulier des religions, qu'il faille suivre les indications du rituel d'une manière vraiment tout à fait fidèle, sans aucun écart, pour que le rite soit valable. Il paraît qu'aux Indes, les prières et autres textes liturgiques qui sont récités, des centaines de milliers de vers en sanskrit, doivent être récités sans une seule erreur. Parce que si on se trompe une fois pour une syllabe, ça y est, c'est fichu. Et il y a des prouesses de mémoire tout à fait éblouissantes à ce propos. Les prêtres, effectivement, se rappellent des centaines de milliers de vers. Et de manière très très générale, donc, la ritualité s'accompagne d'un souci très grand de faire les choses en latin rite, de cette manière exacte. Or, ce souci me paraît tout à fait absent, en tout cas invisible, quant au baptême et à la scène, selon le Nouveau Testament. Très très peu d'indications sur la manière de procéder, très peu de soucis à ce propos. Donc, si nous employons le mot rite, sachons qu'il y a au moins des différences avec l'attitude rituelle, peut-être aller jusqu'à dire ritualiste, dans les secteurs de la vie humaine ordinaire, dehors de la Bible, où les rites ont beaucoup de place. Mais bon, on trouve un bain et un repas ritualisé. Vous voyez la prudence que j'essaie de mettre dans cette expression ritualisée. Peut-on les associer? Je suggère qu'il y a suffisamment de bonnes raisons pour le faire et donc de créer un genre commun pour baptême et scène. Il y a des similitudes entre baptême et scène qui sont d'abord que ce sont les deux seuls éléments rituels que l'on retrouve partout et qui semblent faire l'objet disons d'un respect constant. Partout les chrétiens, d'après le Nouveau Testament et d'après les écrits du christianisme le plus ancien, disons allons jusqu'au début du deuxième siècle, partout les chrétiens pratiquent le baptême et pratiquent un repas à valeur symbolique que l'on appelle de divers noms, mais le Nouveau Testament l'appelle surtout repas du Seigneur ou fraction du pain. Alors que dans toutes les religions, il y a des rites parfois très très nombreux qui ont un caractère obligatoire. Dans le Nouveau Testament, c'est assez stupéfiant, presque rien. Alors que l'Ancien Testament imposait des rites très nombreux et assez compliqués. Rien de tout cela dans le Nouveau Testament, et un message, nous y reviendrons, de libération à cet égard. Mais pourtant, ces deux éléments ritualisés, alors là, on les retrouve partout. Ce sont les seuls. Certes, on retrouve en de nombreux endroits l'imposition des mains. On peut s'interroger sur l'imposition des mains, qui a pris valeur de rite indépendant et donc de sacrement aussi dans la tradition ultérieure. Il n'est pas universel, cependant, dans le Nouveau Testament. On ne voit pas partout cette imposition des mains, autant que pour le baptême ou la scène. Et surtout, c'est un geste qui semble polyvalent, que l'on voit intervenir dans une situation extrêmement diverse, pour la guérison, pour une passation de pouvoir. Et donc, il semble que ce soit un geste qui n'ait pas le caractère de signification bien défini, qui appartient au baptême ou à la scène. On peut aussi plaider, c'est en tout cas mon option, que l'imposition des mains est un élément du rituel du baptême en de nombreux endroits. Sans doute pas universellement, mais je pense que pour une bonne part du christianisme apostolique, le baptême se pratiquait avec une imposition des mains. Ce qui me semble aller particulièrement dans ce sens, c'est le début du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur aux Hébreux évoque les points élémentaires de l'enseignement chrétien, la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains. Et la copule, l'expression que l'on traduit « et » en français, indique un lien particulièrement étroit. Vous avez deux façons d'exprimer ce lien en grec. Vous avez la copule ordinaire « kai », et puis vous avez une copule « t » qui indique un lien plus étroit. Or, c'est elle qui est employée ici. Il suggère que c'est une seule et même doctrine, c'est un seul et même point, les baptêmes et l'imposition des mains. Ça me semble un bon argument pour dire que l'imposition des mains n'est pas un rite formalisé à part. Il s'emploie dans des situations extrêmement diverses. Et puis, tout spécialement, comme un élément du rituel du baptême, dans pas mal de secteurs. Et puis, l'autre élément ritualisé, c'est l'onction d'huile, mais alors il est très, très peu attesté. Avant la croix et la résurrection, dans la mission des disciples que Jésus envoie, il y a une onction des malades qui est mentionnée, et puis il y a le fameux passage de Jacques 5, qu'il est bon, me semble-t-il, d'appliquer, nous le faisons dans ma propre église, mais qui ne me semble quand même pas avoir le caractère d'un usage universel dans tout le christianisme apostolique et d'une règle qui se soit imposée à toutes les églises en ce temps-là. Donc là aussi, une situation différente. Donc ce sont les deux seuls, baptême et scène, deux seuls éléments ritualisés qui ressortent, alors qu'autrement, le christianisme primitif n'a pratiquement aucun élément de cette catégorie. Il y a le fait que, dans les deux cas, nous avons un commandement du Seigneur. La question qu'on a appelée plus tard, c'est de l'institution des sacrements, en disant qu'il faut une institution divine pour qu'il y ait sacrement, concerne ce point-là. C'est seulement pour le baptême et pour la scène que Jésus dit à ses disciples qu'ils devront pratiquer la chose. Matthieu 28 pour le baptême, et les moments de l'institution lors de son dernier repas avant de souffrir, faites ceci en mémoire de moi pour la scène. Voilà quelque chose qui caractérise et qui explique sans doute l'usage universel que l'on constate d'après les textes. C'est un point qui unit baptême et scène. Un autre point qui les unit, c'est la référence à la mort de Jésus-Christ. Dans l'un et l'autre cas, d'après les textes, et nous aurons l'occasion d'y revenir, l'élément de signe renvoie à la mort de Jésus. De façon diverse, sans doute, mais c'est indubitable. Pensez à Romains 6 pour le baptême, et pensez bien sûr aux paroles d'institution pour le pain et le vin de la scène. Et dans les deux cas, nous avons un élément symbolique, une image qui est d'ailleurs prise du trésor d'images de toute l'humanité. Ce sont des symboles courants partout, des symboles de l'usage de l'eau et de la nourriture. Dans les deux cas, vous avez l'usage de symboles très communs, que Dieu avait aussi repris dans l'Ancien Testament, pour évoquer la participation aux bienfaits que la mort du Christ acquiert aux croyants. Donc ce n'est pas seulement un signe qui renvoie à la mort de Jésus-Christ, ce n'est pas du tout comme en théâtre, comme dans un mystère, ainsi qu'on en jouait au Moyen-Âge, ou comme on joue encore au Baramorgo. Il ne s'agit pas de jouer la mort du Christ, pas du tout, ni dans le baptême, ni dans la scène, mais il s'agit d'évoquer à l'aide d'images communes et très très fondamentales, et qui justement font résonner des archétypes de l'inconscient, les bienfaits qui découlent de la mort du Christ pour les siens. Dans le baptême, plusieurs images, purification, naissance, passage à travers les eaux menaçantes de la mort. Vous avez divers éléments qui sont liés au symbolisme de l'eau. Et pour la scène, alors c'est encore bien plus évident. La véritable nourriture, le véritable breuvage pour la vie éternelle. Donc, des traits qui sont communs au baptême et à la scène, ça en fait beaucoup. Et cela me semble déjà suffire à légitimer l'inclusion du baptême et de la scène dans une seule et même catégorie. Mais on peut ajouter encore, toujours dans ces éléments de preuve, que le Nouveau Testament le suggère en quelques endroits. Ce n'est pas très fréquent. Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a au moins deux passages qui vont dans le sens d'une association du baptême et de la scène. Il y en a deux autres que certains pourraient citer, mais que je récuserai, je les signalerai quand même. Mais il y en a deux qui me semblent avoir effectivement cette fonction d'associer baptême et scène. Il y a la parole de Jésus, là c'est par anticipation, en Marc 10, 38 et les parallèles. Jésus évoque sa mort, dont la pensée déjà l'occupe tout entier. C'est en réponse à la demande des fils de Zébédée, accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. Et Jésus dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, car pour lui, l'intronisation, la glorification que le Père a préparée pour lui, c'est la montée sur la croix. C'est ainsi qu'il sera élevé de la terre, comme l'évangile de Jean va le mettre en relief. Et Jésus ajoute, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Jésus évoque sa mort à l'aide des deux figures de la coupe, qui était un symbole familier de destinée et de jugement aussi. La coupe que Dieu préparait, souvent la coupe de sa colère dans l'Ancien Testament, c'était le jugement destiné aux rebelles. Donc Jésus évoque sa mort comme une coupe qu'il a à boire, et il le refera encore dans le dialogue angoissé de Gethsémané. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Et puis il l'évoque sous l'image d'un baptême, d'un bain à travers ces eaux de la mort, eaux du jugement encore, qui correspond aussi à certains textes de l'Ancien Testament. Donc nous avons une association de la coupe, qui, je pense, fait inévitablement penser les lecteurs chrétiens à la scène où il y a une coupe, et du baptême. Et d'autre part, il y a le texte que nous avons lu de la première aux Corinthiens au chapitre 10. Une de mes raisons, si je l'ai choisi, pour introduire notre série. L'apôtre Paul, comme vous le savez, dans ce passage, veut avertir les Corinthiens contre une fausse sécurité, et contre une sécurité telle qu'elle en amenait certains à jouer avec le feu, c'est-à-dire avec le démoniaque. Il s'apprête dans son chapitre à dénoncer le grave péril spirituel qu'il y a à participer aux orgies dans les temples païens. Orgies en la présence des idoles et avec des viandes qui leur étaient sacrifiées, mais dans leur temple même. C'était évidemment un élément clé de la vie de la cité par rapport à l'implication sociale des citoyens. C'était important, c'est pour ça que les chrétiens pouvaient être tentés d'y participer. Alors l'apôtre Paul, à partir du chapitre 8, combat sur un double front. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu compliqué à comprendre. D'une part, il ne veut surtout pas qu'il y ait des nourritures taboues, qu'on s'imagine qu'aux éléments matériels du manger et du boire s'attache en soi une sorte d'énergie spirituelle. Il affirme, avec ceux qui se disaient les forts dans l'église de Corinthe, qu'effectivement, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, que la terre est au Seigneur, tout ce qui lui appartient, qu'on est parfaitement libre de manger, quand on est chrétien, des viandes qui ont été sacrifiées à des idoles. Elles sont vendues au marché, pratiquement toutes les viandes sur le marché ont été sacrifiées aux idoles. Aucun problème, il ne faut surtout pas avoir peur. Les idoles ne sont rien. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, un seul Seigneur. Il lutte donc contre cette mentalité qui est celle des tabous, d'une crainte de contamination par contact. Mais d'autre part, il lutte sur l'autre front. Ces forts se croyaient tellement forts qu'ils allaient jusqu'à participer aux cérémonies idolâtriques, aux banquets dans les temples d'idoles. Et alors là, Paul dit, pas question, c'est pas possible. Là, c'est provoquer le Seigneur, c'est exciter sa jalousie, c'est se livrer aux influences démoniaques qui ont libre cours dans ces cultes d'idoles. Je ne crois pas que Paul identifie purement et simplement tel dieu païen, faux dieu, et tel démon. Mais dans les cultes païens, les démons sont à l'œuvre. Et participer à ces cérémonies du culte païen, c'est s'exposer à l'action des démons. C'est s'associer en quelque sorte à eux, avec tous les autres convives, et ça c'est absolument exclu pour des chrétiens, et des chrétiens qui expriment par la participation au repas du Seigneur leur communion avec le vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Voilà la ligne générale de l'argumentation de Paul dans les chapitres 8 à 10 de la première aux Corinthiens. Et alors, dans la première partie du chapitre 10, son argument principal, c'est qu'il ne suffit pas d'être du bon côté, d'avoir fait le bon choix, pour être alors garanti et pouvoir se risquer à n'importe quoi. Et il prend l'exemple des Israélites lors de l'Exode pour avertir les Corinthiens. Il leur dit, ces Israélites, ils avaient bénéficié de grâces extraordinaires de la part de Dieu. Ils avaient été les témoins de ses hauts faits, ils avaient été directement au bénéfice de son œuvre de rédemption hors d'Égypte. Ils avaient des tas de privilèges qui étaient dans le registre des types, typologiques, et le mot spirituel a ici le sens de typologique, qui était l'image de ce que les chrétiens connaissent en Christ par la foi. Donc il y a une certaine analogie entre la situation de ces Israélites lors de l'Exode et la situation des chrétiens aujourd'hui. Or, la possession de tous ces privilèges n'a pas empêché ces Israélites de tomber sous les jugements de Dieu quand ils ont cru pouvoir flirter avec, finalement, l'équivalence des influences démoniaques. Et donc, ce qu'ils ont vécu et les coups qui leur ont été portés par la justice du Seigneur doivent nous servir d'avertissement et d'exemple. Voilà le point décisif. Et alors, il emploie les éléments dont le livre de l'Exode nous fait part pour montrer l'analogie entre la situation des Israélites qui sont sortis d'Égypte et les chrétiens comme ceux qui étaient à Corinthe. Ces ancêtres israélites, pour lui c'était des ancêtres selon la chair même, mais pour tous les chrétiens en un sens ce sont des ancêtres spirituels. Ils ont tous bénéficié de la nuée qui représentait le Saint-Esprit. Ils ont tous traversé la mer par ce grand miracle de Dieu. En quelque sorte, ça a été l'équivalent de leur baptême. De même que les chrétiens sont baptisés pour le Christ, il emploie la préposition « eis » qu'on peut traduire « en » ou « pour ». Ce sont les deux traductions, et je pense que la traduction « pour » qui s'impose. De même que les chrétiens sont baptisés pour le Christ, ils ont été baptisés, eux, ces Israélites, pour Moïse. Ces événements clés, la nuée les enveloppant et les protégeant, le passage à travers les eaux de la mer, les ont constitués en un peuple sous la direction de Moïse, avec Moïse pour chef. C'est l'analogue de ce qui se passe pour les chrétiens avec le baptême. Et donc, on pourrait dire qu'ils ont été baptisés, c'est un type du baptême, baptisés pour Moïse, comme les chrétiens sont baptisés pour le Christ. Et ensuite, ils ont mangé la manne, ils ont bu l'eau jaillie du rocher, et ça, c'est de nouveau en image, l'équivalent de ce qui s'exprime dans la manducation du pain et la participation à la coupe dans la scène. Donc ils ont eu tous ces privilèges qui correspondent à ceux des chrétiens. Ça ne les a pas empêchés de joncher le sol du désert lorsqu'ils ont dévié. Voilà l'avertissement. Alors ce qui est pour notre propos ce matin significatif, c'est que Paul associe le baptême et puis le fait de manger, de boire. Manifestement, je vois difficilement comment le comprendre autrement. Il a en vue les deux cérémonies, les deux rites chrétiens, du baptême et de la scène. Et pour avertir les Corinthiens qui se considéraient sans doute garantis parce qu'ils avaient été baptisés, qui participaient à la Sainte Cène, contre toute influence démoniaque, de telle sorte qu'ils allaient jusqu'à ces extrémités de conduite prétendument libérée, pour avertir ces chrétiens, donc, il leur présente les Israélites comme ayant reçu leur sorte de baptême et leur sorte de repas, en soulignant que ça ne les avait pas protégés. Mais si Paul peut raisonner de cette façon, c'est que dans son esprit, baptême et Sainte Cène vont ensemble. Voilà ce qui me paraît une preuve biblique très solide de la légitimité de l'association des deux. Alors j'ai dit qu'il y avait d'autres passages que certains invoqueraient. Bon, déjà dans la suite de l'Épître aux Corinthiens, pendant un temps j'ai cru qu'on pouvait citer dans ce sens, mais maintenant je ne le crois plus. Dans 1 Corinthiens 12, il est question du baptême dans l'esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau, mais il y a forcément un lien, puisque le même mot est employé. Et l'apôtre dit, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Nous avons tous été abreuvés par ce même esprit. Alors certains ont cru que là, c'était une allusion à la fin du verset, à la Sainte Cène, puisqu'il est question de boisson. Donc on aurait de nouveau allusion indirecte au baptême et à la scène. Mais je ne le crois pas, j'ai été convaincu par des commentateurs qui disent que l'allusion n'est pas à la boisson que l'on prend dans un verre ou dans une coupe, mais à la pluie, au déluge qui fertilise le sol, qui abreuve une terre aride, et associé donc à l'image du baptême. Le baptême dans l'Esprit Saint est annoncé dans les textes de l'Ancien Testament comme l'ouverture des écluses des cieux et ça se déverse en déluge, ce sont les torrents du ciel qui viennent submerger une terre desséchée et qui boit cette eau qui lui donne la vie. Mais c'est toujours l'image du bain en fait. Donc je crois que c'est l'interprétation la plus sobre pour 1 Corinthiens 12, 13 et donc je ne cite plus ce verset pour l'association des deux sacrements, entre guillemets. D'autres ont vu baptême et scène à titre d'allusion dans le texte de Jean 19 qui dit que du côté de Jésus, lorsqu'il a été transpercé par la lance, Jésus en croix, sont sortis du sang et de l'eau. C'est au verset 34, Jean 19, 34. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 5, il y a ce passage qui pour beaucoup est assez énigmatique, où Jean souligne qu'il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et d'assez nombreux commentateurs y voient les deux sacrements. L'eau, baptême, le sang, la scène. Je crois que cette interprétation est mal fondée dans les deux cas. Donc, je ne m'appuie pas sur ces versets pour réunir baptême et scène dans la même catégorie. Je crois que c'est tout à fait arbitraire que d'y voir les sacrements. Oui, dans 1 Jean 5, le baptême, c'est le baptême. Mais c'est le baptême, non pas chrétien, mais le baptême de Jésus au Jourdain. Et le sang, c'est sa mort. Il s'agit d'une réplique à l'hérétique Sérinthe, qui affirmait que le Christ s'était posé sur l'homme Jésus au baptême, mais qu'il l'avait quitté avant la croix, jouant ainsi un bon tour aux chefs juifs et aux Romains. Un élément qui sans doute a influencé d'ailleurs la formulation du Coran à ce propos. Donc le sang, ce n'est pas du tout la Sainte Seine, c'est la mort de Jésus. Et puis dans Jean 19, où d'ailleurs c'est le sang d'abord, ce qui ne serait pas l'ordre baptême-scène normal, le commentaire qui est fait par Jean 19 est, je crois, suffisamment explicite. Le sang signifie qu'il était l'agneau pascal, car quand lui s'accomplit la promesse de la rédemption par la vraie Pâque, car il est dit « aucun de ses os ne sera brisé », c'est une règle pour l'agneau pascal, l'agneau, le chevreau pascal. Donc il y a une identification. Et puis, un autre passage est cité, ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé, c'est le texte de Zacharie, qui annonce qu'une source sera ouverte à Jérusalem pour la source, pour le péché et pour l'impureté. Donc je crois que l'intention de la mention du sang et de l'eau est très claire par ces deux citations. Il s'agit d'identifier en Jésus mourant sur la croix la vraie Pâque et celui par qui l'eau purificatrice jaillit de la source pour le péché et l'impureté, parce qu'il est le transpercé. Donc, les deux éléments du transpercé et de l'ouverture de cette source sont ensemble. C'est le même élément de texte dans le livre de Zacharie, Zacharie 11 et 12. Donc, nous avons, me semble-t-il, une explication claire dans le texte même, par ces deux citations, du sens qu'il faut donner au sang et à l'eau. Et donc, il est tout à fait arbitraire d'ajouter à cela une prétendue référence au baptême et à la scène. D'ailleurs, la scène n'est jamais évoquée par simplement l'expression de sang. Lorsqu'elle est évoquée pour deux autres, que je vous ai d'abord présentés, qui me semblent apporter la justification biblique, la confirmation qu'en effet, baptême et scène peuvent aller ensemble. Ces raisons, dis-je dans le canevas, constituent des objections à toute addition à la catégorie. Tout ce que nous venons de voir est propre au baptême et à la scène et ne se retrouve pour aucun autre geste plus ou moins rituel ou symbolique dont le Nouveau Testament pourrait faire état. Et lorsque les catholiques donc ajoutent au baptême et à la scène appelée Eucharistie cinq autres cérémonies et les appellent sacrements semblablement, c'est là forcer les choses, puisque les éléments de très commun et avec justification biblique que nous avons relevé ne valent plus. Il n'est nulle part présenté, par exemple, que le mariage serait institué par le Christ comme un ordre à célébrer parmi ses disciples, qu'il ferait référence à la mort de Jésus, que assez bien fait. Il est bien clair que le mariage, qui est l'un des sept sacrements pour les catholiques, ne correspond pas à cet ensemble de traits que nous avons définis. Les catholiques, d'ailleurs, le reconnaissent jusqu'à un certain point. Il y a la notion qui a été étudiée par le père Conquart, fait cardinal peu de temps avant sa mort, des sacrements majeurs. Le baptême et l'Eucharistie sont appelés sacrements majeurs, par distinction des cinq autres. Ils sont bien obligés de voir qu'il y a une différence à cet endroit. Et pour l'institution divine, en général, ils sont obligés de se replier sur l'idée d'une institution indirecte pour les cinq autres. Ils n'ont pas été commandés par le Seigneur, contrairement au baptême et à la scène. Au-delà des sept sacrements, d'ailleurs, ils ont aussi ce qu'ils appellent les sacramentaux, qui sont des gestes, comme par exemple asperger d'eau bénite, qui ont à leurs yeux, c'est pour le catholicisme traditionnel, une valeur d'efficacité spirituelle qui participe jusqu'à un certain point de la fonction des sacrements, mais qui pourtant ne sont pas des sacrements. Alors on les appelle des sacramentaux. C'est comme une zone satellitaire autour de l'ensemble des sacrements. Il y avait eu des débats et des hésitations sur la fixation du nombre des sacrements. Certains, au Moyen-Âge, allaient jusqu'à 12 sacrements. Finalement, c'est 7, puis après ça, il y a une nébuleuse de sacramentaux alentour. Alors nous protégeons, je pense avec rigueur et prudence, de cette constitution d'une catégorie disons, assez arbitraire en disant non. Il y a des traits communs qui autorisent à mettre ensemble baptême et scène seulement. Oui, madame. Alors, essayons de récapituler. Donc, après le baptême et l'Eucharistie, le premier dans l'ordre le plus logique, c'est la confirmation. La confirmation qui est faite de l'imposition des mains et d'une onction qui a été... Pendant très longtemps, on dit très longtemps, pendant 2-3 siècles, un élément du rituel du baptême. En fait, le rituel du baptême s'est surchargé, s'est enrichi de nombreux symbolismes supplémentaires, y compris une onction. Mon hypothèse, en tout cas, c'est que c'est à partir du langage imagé sur l'onction du Saint-Esprit, vous avez tous été loin du Saint-Esprit, que le Nouveau Testament emploie, que certains chrétiens se sont dit, eh bien alors, introduisons aussi une onction avec de l'huile réelle dans le rituel du baptême. Et puis, dans la suite des temps, cela s'est dissocié. Cela s'est dissocié essentiellement à cause de la croissance de l'Église et du fait que l'évêque était censé seul capable de pourvoir cette onction. Cette onction représentant l'esprit, et donc censé dans le sacramentalisme communiquer l'esprit, c'était une prérogative de l'évêque. Et seul l'évêque peut l'accorder, ce saint crème. Pour le baptême, on admettait que le prêtre, le simple prêtre, pouvait l'opérer, et même dans des cas d'extrême urgence, il est possible à un laïc de baptiser. Alors, quand l'Église s'est mise à grandir, que l'évêque a eu tout un territoire avec, etc., une disjonction s'est produite. Les prêtres baptisaient, mais il fallait attendre la tournée de l'évêque pour pratiquer l'onction avec l'imposition des mains qui est censée communiquer le Saint-Esprit. Et c'est de cette façon qu'un deuxième sacrement s'est disjoint. Et on s'est retrouvé d'ailleurs avec un sérieux problème de signification. Un moine bénédictin anglican, Dom Gregory Dix, a montré, je crois, très bien dans un petit livre sur la confirmation, qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas très bien pourquoi il y avait cet autre sacrement. Et on a cherché alors à l'interpréter en termes de confirmation, non pas tant au sens de quelque chose à confirmer, mais plutôt de la personne à équiper, à affermir pour le combat. Le baptême étant devenu un sacrement de l'enfance, l'idée s'est instaurée que voilà, le baptême fait naître à la vie nouvelle, mais c'est encore un enfant, il est inapte au combat de la vie. Et à la confirmation, alors, il devient capable de combattre pour le Christ. Il reçoit la force de l'Esprit pour cela. Donc il y a la confirmation en troisième sacrement. Il y a le sacrement de l'ordre, qui est un sacrement très important, qui fait le prêtre. Le sacrement dit de l'ordre, le mot dérivé étant ordination. Conférer ce sacrement, c'est ordonner. Ça, c'est un sacrement qui joue un rôle clé. Je pense que si on peut dire qu'il y a des sacrements plus importants que d'autres, qu'avec les deux majeurs, c'est le sacrement de l'ordre qui est le plus important, en réalité. Il y a la pénitence pour les péchés qui ont été commis après le baptême, et alors il faut régler cette question. Donc il y a la pénitence avec l'absolution. Il y a le mariage et il y a l'extrême onction, qui ne s'appelle plus guère aujourd'hui de ce nom. On l'appelle le sacrement des malades. On est revenu dans le catholicisme d'aujourd'hui à une interprétation beaucoup plus proche de Jacques V, mais très longtemps on l'a appelé l'extrême onction. Je crois que chez les sept comme ça. Hein. Voilà. Alors, l'inclusion dans une même catégorie étant acquise, le nom traditionnel de sacrement peut-il être retenu? Certains n'aiment pas employer le mot sacrement, et en fait, il a été assez caractéristique de la tradition baptiste d'éviter ce terme. Dans le monde anglo-saxon, on a employé très très souvent, du côté baptiste, le mot d'ordonnance, ordinance, pour désigner le baptême et la scène, des choses qui ont été ordonnées par Dieu, par le Christ, donc on les appelle les ordonnances. Mais en français, ça n'a jamais vraiment pris. Et je crois qu'on doit dire que depuis les premiers usages repérés, le terme sacrement a eu des sens extrêmement divers. Schématiquement, je pense qu'on peut dire que le terme qui était un terme du latin ordinaire, qui désignait un serment sacré. Alors il y avait bien l'idée de sacré, hein, c'était présence de la divinité, avec un gage souvent dans son temple, mais c'était un serment. Le mot serment en français, c'est le mot sacrement, sacramentum. Par évolution linguistique, a fait serment en français. Et c'était spécialement le serment, alors serment sacré, d'allégeance à l'empereur. Les légionnaires, ils devaient se déclarer corps et âme voués à leur chef, voués au César. Et étant donné cet usage-là, le premier usage repéré semble avoir le sens du serment d'allégeance à l'empereur pour le baptême et la scène, Jésus-Christ étant le chef de cette légion chrétienne qu'est l'Église. C'est Pline le Jeune, qui était gouverneur de Bithynie, dans l'actuelle Turquie, qui, demandant des instructions à son empereur sur la manière de traiter les chrétiens et décrivant les mœurs des chrétiens, faisant son rapport en quelque sorte, emploie le mot sacramentum, le premier, apparemment pour désigner le baptême et la scène. Ce n'est pas absolument sûr qu'il désigne le baptême et la scène, mais c'est généralement ce que l'on admet, c'est quand même très probable. Et dans ce texte, il semble qu'il évoque le serment d'obéissance, de fidélité au Seigneur, qui s'exprimait dans le baptême et se renouvelait dans la participation eucharistique. Ça paraît le premier sens. Et on en trouve le relais à la fin du IIe siècle, cette fois, avec Tertullien. Il n'y a pas grand-chose au cours du IIe siècle en latin. Sacramentum, c'est bien sûr un mot latin. Alors, il y a très peu d'auteurs de langue latine. Le premier créateur d'un latin chrétien, c'est Tertullien. au cours du deuxième siècle, à Rome, c'était dans l'Église le grec qu'on parlait encore. La langue grecque était langue de culture très largement, et donc c'est tardivement que le latin chrétien s'est édifié, relativement tard, disons, tout spécialement avec Tertullien, avocat très éloquent d'Afrique du Nord, de la romaine, et maître de la langue. Alors il l'emploie parfois dans ce sens de serment d'allégeance. L'image de la milice du Christ pour l'Église était assez favorite, les chrétiens l'employaient assez souvent. Et par le baptême, on s'enrôle sous les bannières du Christ et on lui prête le serment de fidélité. Il y a quelques autres usages chez Tertullien aussi quand même, il ne faudrait pas dire que ce soit le seul usage chez lui. Et par la suite, cet ouvrage a été comme recouvert par un autre. L'idée de sacré a pris l'avantage et le mot est devenu la traduction la plus habituelle pour le mystère grec, mysterion en grec. Le mot mystère qui signifie un secret, mais qui était aussi associé aux cérémonies rituelles censées produire des effets mystérieux, des religions dites à mystère. Dans le monde grec, ce mot de mystère, on était venu aussi à désigner des rites, et des rites censés produire quelque chose. Alors, lentement, parce qu'il y a eu des résistances, ça n'a pas été si rapide que ça, mais enfin, quand même, en un siècle, lentement, cette façon de considérer les mystères, des religions à mystère païennes, s'est infiltrée dans l'Église. Et le baptême et la scène ont été considérés de cette façon et appelés des mystères, les mystères chrétiens. Parfois d'ailleurs, l'apologétique chrétienne disait « Ce sont les païens qui ont copié, ce sont les démons qui imitent le vrai Dieu, les seigneurs. » À propos des similitudes entre baptême et scène et puis les cérémonies des mystères. Et la traduction latine adoptée pour le mot mystère, ça a été « sacramentum », c'était le mot « sacrement ». Et du coup, le mot s'est chargé de deux connotations principales, l'idée d'un secret mystérieux, mais sacré, appartenant au domaine de la religion, et l'idée d'une efficacité de la production d'effets spirituels. Et c'est le sens qui a prédominé, alors là, pendant des siècles et des siècles, pratiquement jusqu'au temps de la Réforme. Oui, monsieur, oui. Oui, oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine concomitance au IIIe siècle. C'est tout spécialement avec Saint Cyprien, au milieu donc du IIIe siècle, que cette promotion du prêtre s'est affirmée, sa distinction, l'idée qu'il opère un sacrifice, et c'est aussi l'époque où le mot sacramentum se charge de toutes ces connotations dont nous avons parlé. Mais cela se poursuit tout au long de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Âge, avec des définitions diverses, hein, ça se tâtonne et des options qui ne sont pas toutes identiques, mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails. Au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Au XVIe siècle, Zwingli retrouve le sens de Tertullien, de Pline le Jeune, et il le remet en valeur. Mais comme il garde le baptême des petits-enfants où il n'y a pas un engagement du petit-enfant, très clair, ce n'est quand même pas ce qui détermine sa doctrine.
Oui. Une loi irréelle de l'anabaptiste.
Oui, donc il a réagi très fort contre les anabaptistes, effectivement. Et puis, le reste de la Réformation a réagi contre la conception causative liée à la notion de sacrement jusqu'alors, mais a gardé le terme. Le sacrement devenant un signe toujours sacré, institué par le Christ, mais comme parole visible. La notion de parole visible a été la notion clé. Alors, du côté réformé, sans aucune causalité distincte de celle de la parole, de telle sorte que Karl Barth a pu dire que c'est un rôle cognitif, dans la connaissance, c'est la parole que les sacrements remplissent pour la réforme, en tout cas de ligne zwinglienne et calviniste. Certains se laissent prendre au langage et ne l'ont pas discerné si bien, mais je crois que c'est juste, foncièrement, disons. Le cas de Luther est plus complexe. Chez Luther, restent des éléments causatifs, mais liés à la parole quand même. Parce qu'il conçoit la parole plus comme une force que comme un discours, en tout cas en partie. On sent cette inclination chez lui. Une force qui peut s'unir même à l'eau du baptême. Il a pu dire que l'eau du baptême est comme divinisée. Et simultanément, donc, il insiste sur le fait que c'est la parole, c'est seulement la parole, mais c'est une parole qui a des traits qui ne ressemblent plus tellement à ce qu'on entend par le mot de parole, un usage du langage. Voyez. Donc chez lui, il y a une certaine complexité, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais globalement, pour la réforme, le mot sacrement prend le sens d'un moyen de grâce au titre de la parole, s'ajoutant à la parole comme une forme visible, tangible, mais toujours de la parole. Et il y a répudiation de ce que j'appelle sacramentalisme, c'est-à-dire l'attribution d'une fonction causative, distincte de celle de la parole, donc à l'égard de la grâce. L'idée que les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient, qu'ils en sont comme des canaux ou des vases, c'est une image du Moyen-Âge. Les réformateurs brisent avec le sacramentalisme, mais ils maintiennent le mot de sacrement. Les premiers anabaptistes ou baptistes ont gardé le mot sacrement, en changeant encore et en mettant l'accent sur l'engagement, selon le sens, si vous voulez, de Pline le Jeune et de Tertullien. Mais par la suite, à cause de toutes les associations catholiques, pourrait-on dire, sacramentalistes, nombre de baptistes, en tout cas, l'ont rejeté. Et on préférait dire ordonnance. Ce n'est qu'au XXe siècle que les attitudes ont de nouveau changé et que nombre de baptistes dans le monde ont repris le mot sacrement, parfois avec des motifs que je ne partagerai pas, parfois avec des motifs que je partagerai. Alors, nous en sommes là. Ma conclusion personnelle, mais que je ne vais pas vous imposer, ma conclusion, c'est que les mots sont toujours définis par l'usage, que le mot sacrement, quelle que soit son étymologie, a eu tant d'usages divers au cours des âges que nous pouvons avoir le nôtre, si nous sommes assez énergiques, à le maintenir. Je ne veux pas avoir peur du mot, mais je veux lui donner évidemment le sens qui me semblera convenir. Donc je suis prêt à retenir le mot, mais en m'opposant à ce que j'appelle sacramentalisme, attribution d'une fonction causative, et de manière plus générale, que je considérerais comme une surestimation de la place, de l'importance, de la valeur des sacrements dans la vie chrétienne. D'accord pour le mot sacrement, tout le monde l'emploie, les gens l'emploient de toute façon dans des sens divers, alors nous aurons le nôtre de sens à lui attribuer, mais puisque c'est le mot courant, n'essayons pas de l'éviter, il n'y en a pas d'autre qui puisse servir commodément à sa place. Mais alors, soyons bien clairs que cela n'implique aucun sacramentalisme. Voilà la conclusion à laquelle j'aboutis pour ma part. Alors ça, c'est ma première partie, la première moitié de ma leçon que je comptais faire en cette première heure. Je crois quand même qu'en début de séance cet après-midi, il faudra que je couvre le terrain du grand B, sur le rapport aux grands modèles ecclésiologiques, parce que c'est quand même nécessaire à la compréhension de ce qui suivra. J'essaierai d'aller vite et de couvrir aussi la deuxième partie, le chapitre 2. Et il y a y a 5 chapitres comme nous avons 5 séances. Alors, je me sers simplement des 2 minutes qui restent, 2-3 minutes, pour faire un commentaire très très bref sur les éléments bibliographiques qui sont annexés. C'est une bibliographie brève. Une de mes raisons, c'est que je vous en fournirai beaucoup plus de titres, si vous en voulez, dans le livre qui doit paraître dans quelques mois. Je prépare une édition de mon cours d'ecclésiologie qui inclut donc comme une moitié en gros la doctrine des sacrements. Je la prépare pour édition dans la série Didascalia aux éditions Excelsis, la doctrine du péché de la rédemption apparue. J'ai travaillé un peu ces derniers jours et je dois travailler encore avec Joseph Dessier sur la christologie, comme le numéro 2 dans la série, et le numéro 3 devrait être l'ecclésiologie avec la doctrine des sacrements, et là il y aura beaucoup de plus en bibliographie. Alors, autrement, je signale ce qui est d'accès le plus facile pour les lecteurs nouveaux, parce que les lecteurs plus chevronnés parmi vous pourront se débrouiller tout seuls pour faire le choix de lecture. Alors, il me semble sûr que ce sont les livres d'Alfred Kuhn qui représentent l'introduction la plus aisée. Et il y a 2 ouvrages, l'un sur le baptême et l'autre sur le repas du Seigneur, que je vous indique. Alors, pour le baptême, parce que c'est le volume que j'ai mis la vieille édition. Mais j'indique bien qu'il y a eu réédition nettement augmentée et modifiée, mais je ne la possède pas. Alors, je n'ai pas mis les indications, je ne les avais pas sous la main chez moi. Mais sachez donc qu'il y a un ouvrage important sur le baptême que notre frère Alfred Kuhn a rédigé. Et sur le repas du Seigneur, c'est tout récent, et j'ai fait une assez longue recension, un article revu dans Fac Réflexion, le journal théologique de notre faculté. Alors, vous pouvez voir mon avis, les points sur lesquels je suis d'accord et moins d'accord. Ouais. Donc, ça peut vous intéresser. Et puis, je signale, en dehors de ces 2 titres, le titre suivant. Là, vous risquez de ne pas pouvoir mettre la main dessus dans aucune librairie. Je crois que c'est épuisé depuis longtemps, mais c'est à la bibliothèque ici. Donc, juste le cerf. Le cahier qui vient d'un cours qu'il a professé de la revue réformée numéro 22, des moyens de la grâce, la parole, le baptême, la Sainte Cène. C'est un bijou théologique. C'est vraiment un très très beau travail qui est quand même de lecture assez simple. Ce n'est pas très long. 104 pages, c'est pas très long sur un tel sujet. Auguste Le Serf, donc, est celui qui a restauré un calvinisme évangélique dans l'Église réformée en France, qui a été professeur au soir de sa vie, il a été nommé très tard, professeur de théologie systématique ou dogmatique à la faculté de théologie protestante à Paris. C'est lui qui a été le maître de Pierre Courtial comme de Pierre Marcel. S'il y a eu un courant de théologie réformée évangélique dans l'Église réformée française, c'est grâce à Auguste Le Serf. Il lui a suscité, me semble-t-il, pour cela même. Et sa synthèse est vraiment remarquable. Alors, ce n'est pas la position qui est la mienne sur tous les points, hein, mais comme expression d'une théologie réformée, orthodoxe, évangélique, c'est vraiment un très très beau texte. Donc, je vous le signale, il est accessible dans notre bibliothèque. Et je pense qu'il est possible de faire des photocopies aussi. Il faut demander à David Gisèle, mais je pense qu'il est possible de faire des photocopies, parce que c'est épuisé depuis longtemps. Voilà donc sur la bibliographie. Maintenant, c'est l'heure pour nous de nous arrêter.